une autre attaque terroriste en France, à Nice cette fois-ci.
Il n'a cessé de répéter en boucle devant nous à la Ouagbar alors qu'il était médicalisé sur place.
C'est la France qui est attaquée. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres. Pour notre goût de la liberté. Pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui, nous n'y céderons rien.
Alors, vous avez entendu les coups de feu donc des policiers qui faisaient feu sur le terroriste. Après ça, c'était le maire de Nice que vous avez entendu et finalement le président français Emmanuel Macron. Alors, on s'en va à Nice parler à Christian Huot qui est rédacteur en chef de Nice ce matin. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
D'abord, nos condoléances. Je pense qu'il faut exprimer notre solidarité avec ce que vous vivez. Ça doit être extrêmement difficile. Extrêmement difficile, surtout que vous n'en êtes pas à votre première épreuve à Nice. D'abord, racontez-nous là, les dernières informations que vous avez pour qu'on saisisse bien ce qui s'est passé.
Alors, écoutez, pour refaire un peu le fil de cette funeste journée, 9h ce matin, un homme rentre dans la basilique Notre-Dame, qui est une des plus grosses églises de Nice, en plein cœur de la ville, hein, sur l'avenue Jean-Médecin, qui est la plus grande artère à la fois commerçante et en même temps où il y a beaucoup de banques, d'assurances et de bâtiments publics. Il rentre dans la basilique, il croise la route d'une femme de 70 ans à peu près, qu'il égorge et qu'il décapite avec une arme blanche. Ensuite, il va un peu plus loin dans la basilique et là, il tombe sur le sacristain qu'il poignarde à mort. Et en s'apprêtant à ressortir de la basilique, il tombe sur une autre jeune femme, plus jeune, d'une trentaine d'années, qu'il poignarde également. Cette femme arrive à s'enfuir comme elle peut par une porte latérale. Elle va se réfugier dans un fast-food de l'autre côté de l'avenue. Malheureusement, elle décédera quelques minutes plus tard de ses blessures. L'assaillant a été interpellé, neutralisé très rapidement par la police municipale, une patrouille qui était en faction tout près, alertée par les passants. Ils sont parvenus à neutraliser sans le tuer. L'homme est atteint de plusieurs blessures et il est à l'hôpital de Nice actuellement. Il s'agirait d'un Tunisien de 21 ans qui serait arrivé sur le sol français il y a quelques jours en provenance d'Italie via l'île de Lampedusa. Voilà, on n'en sait guère plus pour l'instant sur le profil exact de ce jeune homme qui, comme vous l'avez dit, a crié à plusieurs reprises à Allahu Akbar pendant son acte horrible, mais aussi dans le moment où il était médicalisé sur place au sein de la basilique. Voilà pour les faits.
Parlez-moi de l'atmosphère autour de vous.
Écoutez, l'atmosphère est horriblement pesante. Hein. C'est vrai que Nice, qui est une ville de festivité, de joie, d'amour, on va dire, à la française, hein, comme de liberté. C'est une ville touristique, c'est la cinquième ville de France, on l'oublie trop souvent, c'est une très grosse ville, une métropole d'un million d'habitants autour de Nice. Et donc nous avons le goût de la fête, nous avons le goût de ce côté un peu latin, ce côté French Riviera. Et puis depuis quelques années, on n'arrête pas d'être accablé par des catastrophes, à commencer par trois attentats successifs, dont celui de la Prenette des Anglais le 14 juillet, 86 morts, 450 blessés. Oui. On a tous, nous ici à Nice ce matin, comme partout dans la ville, au moins un nom qui résonne en nous de gens que l'on connaissait de près ou de loin. Et on recommence ce matin avec cette angoisse terrible. À ça s'ajoute le climat anxiogène de la France actuellement autour de toute cette série d'attentats, plus la crise sanitaire. On est en reconfinement à partir de ce soir minuit. Et puis, les dernières cerises sur le gâteau, si j'ose dire, il y a 15 jours de ça, une catastrophe climatique terrible sur l'arrière-pays niçois avec des vallées sinistrées, des villages coupés du monde et surtout des pertes humaines autour d'une vingtaine de personnes disparues ou décédées. Vous imaginez que le climat ambiant à Nice en ce début d'automne est absolument pesant.
Je comprends. Là, il faut le dire, je pense que c'est très important de le préciser, le Conseil français du culte musulman a condamné l'attaque et là, il a appelé les musulmans français à annuler les célébrations de la fête du Malid qui célèbre la naissance du prophète, donc parce que on veut marquer justement notre solidarité. Ça, je pense que c'est très important parce que les extrémistes vont vouloir, bien entendu, radicaliser, polariser Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est une espèce de guerre entre chrétiens et musulmans. Là. C'est ce qu'ils souhaitent. Là. Ils souhaitent une espèce de guerre sainte quand ils attaquent à nouveau une église comme ça, quand ils assassinent des gens qui travaillent au sein de l'église. C'est ce qu'ils veulent, une guerre sainte.
Oui, tout à fait. À la fois, ils s'attaquent à la laïcité, à nos principes républicains français, avec l'enseignant décapité il y a quelques jours, juste à la sortie de son collège, mais également, comme vous le dites, au symbole religieux dans cette basilique niçoise ce matin. Vous avez raison aussi de préciser que, heureusement, les voix, notamment celles du culte français musulman, s'élèvent de plus en plus fort. C'est ce qui manquait peut-être un peu à notre pays depuis quelques années. Cette fois-ci, franchement, les musulmans prennent les choses à bras-le-corps et essaient de vraiment se mobiliser, en tout cas leur principal chef, on va dire, pour montrer qu'ils font partie intégrante de la République. Il y a eu quelques appels comme ça à la prière aussi œcuménique. Et puis, voilà, Nice est une ville qui a de nombreuses communautés étrangères, qui vit d'habitude en harmonie, mais c'est aussi une ville, c'est vrai, où on ne voit que le côté luxueux de sa promenade et de ses grands hôtels. C'est une ville, comme je vous l'ai dit, très grande, avec beaucoup aussi de quartiers difficiles, sensibles, hein, comme on en a beaucoup en Europe, comme vous en connaissez aussi au Canada et au Québec. Donc, bien évidemment... il faut vivre avec tout ça, mais oui, heureusement, nous pouvons compter aussi sur une communauté musulmane qui essaie de juguler au maximum ces brebis galeuses, on va dire.
Oui, c'est ça. Parce que, évidemment, dans un climat comme celui-là, le danger, Christian Huot, c'est que les gens finissent par généraliser. Hein? Ils finissent par dire, voici les musulmans en général, les musulmans sont comme ci, et ça, il faut éviter ça à tout prix, là.
C'est absolument ça. Les pouvoirs publics essaient de relier, d'ailleurs, la présence d'Emmanuel Macron 2 heures après l'attentat sur nos terres niçoises, aller un peu dans ce sens, en essayant vraiment d'unir le pays, de faire un appel à la solidarité nationale, à l'union nationale, quelles que soient les races et les religions de ceux qui la composent. Oui. Notre rôle, nous, de journalistes, est évidemment d'en faire de même.
Est-ce que vous avez peur, Christian? Parce que honnêtement, nous, on est très loin de l'autre côté de l'Atlantique, mais on se met à votre place, puis c'est pas difficile de vivre, de ressentir l'anxiété. Et là, on n'est pas chez vous, mais je veux dire, là, c'est rendu que tu te promènes dans la rue. Il doit y avoir des Français qui craignent nécessairement d'être à un moment donné victime d'une attaque comme celle-là, complètement gratuite, qui arrive de nulle part. Et par ailleurs, vous avez tous ces pays dans le monde qui vous boycottent ou qui en appellent même à la violence contre la France. Il y a eu un attentat d'ailleurs en Arabie Saoudite. Le consulat français là-bas a été visé. Il y a eu également, j'aurais dû le préciser, mais il y a eu à Avignon un homme qui a été abattu par les policiers là-bas parce qu'il était muni d'une arme de poing. Ils ont tiré sur lui. On n'en sait pas plus de notre côté. En tout cas, on n'en sait pas plus. Vous devez être un état d'hypervigilance et de...
Écoutez, de toute façon, depuis 2015 et les premiers attentats sur Charlie Hebdo, on vit en France dans un climat anxiogène, d'inquiétude, et on se sent... Évidemment, nous, Français, très, très visés par l'islamisme terroriste, ça, c'est sûr. Maintenant, on est résilients en France, vous savez, et on surtout sur la Côte d'Azur, où, encore une fois, on est une région de soleil et de lumière, et donc on essaie toujours de garder espoir. On vit avec cette crainte, bien évidemment. Après l'attentat de Nice, on a tous eu beaucoup de mal à retourner voir un concert et à se remettre à un endroit où il y avait beaucoup de monde. On surveillait chaque camion blanc qui passait au coin des rues. Ensuite, ou avant, plus exactement, parce que c'était en 2015, les attentats de Charlie Hebdo et aussi de ces terrasses parisiennes, on avait de plus en plus de mal à s'asseoir à une terrasse sans regarder autour de nous. Et puis, la vie reprend son cours et on recommence à y croire et on recommence à espérer et on recommence à vivre comme tout Français qui se respecte avec cet esprit de liberté qui est chevillé à nos cœurs. Et puis, bah voilà, de nouveau ce matin, cet attentat. Bien sûr qu'on a peur. On a des enfants, on a des femmes, on a des maris, des frères et des sœurs qui travaillent dans le centre-ville. J'ai eu des appels de mes proches affolés. Où es-tu? Que fais-tu? Et moi, je suis là. Et oui, on vit avec ça. Et puis, la vie reprend son cours. Et il faut bien avancer parce que sinon, c'est eux qui auront gagné. Hein, on va dire ça comme
voilà,
ça.
Donc, voilà, voilà. Non, voilà. Exactement, exactement. Alors, on est avec vous de tout cœur, Christian Huot. Je vous le redis, mais ça nous touche. On est avec vous de tout cœur. Soyez forts, restez braves et surtout tenez. Tenez, Christian Huot, donc, rédacteur en chef de Nice Matin. À la prochaine.
Eh bien, on passera ce message à nos lecteurs. Merci en tout cas.
Faites-le,
au Canada,
faites-le.
Merci au Québec.
Faites-le.
Merci.
Vous avez la permission. Vous pouvez me citer sans problème. Salut.
C'est gentil. Merci à vous. Au revoir.
Ah, Luc, ça me touche. T'as l'impression que ça n'en finira jamais.
Vraiment, et t'as soulevé la question quasiment d'une guerre sainte, là. Tu sais, moi, j'avais passé le jour de l'an 2018-2019 à Paris. C'était à l'époque de la crise des Gilets jaunes, puis c'était plus ou moins un an et demi après le Bataclan. Mm. Alors, c'était encore beaucoup dans l'air, cette atmosphère-là. Et le terme qui revenait beaucoup dans la bouche des Français à qui j'ai parlé pendant le temps que j'étais là, c'était la crainte des, je cite, des violences communautaires. Mm. Voilà, et je m'explique. Et croyez-moi, je ne le souhaite pas. Mais ce que je crains le plus, c'est qu'éventuellement, et plus tôt que tard, il y aura une attaque par des extrémistes catholiques, chrétiens, français de souche contre des quartiers immigrants.
Mais c'est ce qu'ils veulent.
Et c'est ce qu'ils veulent.
C'est ce qu'ils veulent. Les islamistes, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent provoquer, justement. Ils veulent la violence. Ils veulent la division.
Ils veulent la guerre, oui.
Ben oui, ben oui.
Ils veulent la guerre et des têtes brûlées en France, il y en a autant qu'ailleurs. Et écoute... C'est une atmosphère invivable. Vraiment, c'est une atmosphère invivable. Parce qu'il y a l'histoire de la France, de l'islam et des pays du Maghreb, c'est-à-dire l'arrivée massive de millions de musulmans en France après la fin de la guerre d'Algérie. Ouais. Cet arrivage-là, si je peux utiliser cette expression, se sont plutôt bien assimilés à la France. Ils ont trouvé des emplois à une époque de prospérité dans des usines comme Renault. Et là, il y a eu une deuxième vague, celle qu'on connaît nous aussi ici. Et celle-là s'est accompagnée de tout ce nouveau langage créé par les frères musulmans historiquement et qui est devenu le langage de l'islamisme. Et là, les tensions ont commencé à monter. Oui. Et l'épicier du coin de la rue, qui était au fond un Algérien qui parlait français avec le même accent qu'un Français, soit qu'il était là, soit qu'il était arrivé quand il avait 10 ans après la guerre d'Algérie. Et soudainement, il redevenait un Algérien. Soudainement, j'essayais de parler, moi, parce que comme tu sais, à Paris, au cœur de Paris, ce qu'on appelle ici des dépanneurs, ce sont généralement, comme les Français les appellent, on va aller chercher quelque chose à manger chez l'Arabe. Alors, tu t'en allais chez l'Arabe, où sont les petits dépanneurs, puis tu essayais de lancer la conversation avec l'Algérien en question. Écoute, il disait, mais lâchez-moi avec ça, tu sais, j'ai rien à voir avec ça, là. Tu sais, je suis musulman, mais je suis pas très praticable, certainement pas islamiste.
Je me considère français.
Puis je me considère carrément français. Alors ça, là, c'est cette espèce de mélange. Aïe. Écoute, c'est comme...
Non, c'est très explosif.
Ça va sauter.
C'est
ça
très explosif. Puis moi, je te le dis, Luc, j'ai peur que ça pave la voie à l'arrivée du Front National au pouvoir. C'est ça qui est dangereux aussi, là.
Effectivement.
Soyons honnêtes, là.
D'ailleurs, ils ont déjà fait leur marque, là. Ils ont été en finale dans le deuxième tour l'élection présidentielle pour la deuxième fois.
Les extrémistes... nourrissent les extrêmes.
Exactement. Okay? Alors, tout ça est vraiment triste, d'autant plus que toi et moi et beaucoup de Québécois, la plupart, on adore la France.
Ben oui. Ça restera nos cousins, toujours. Luc, on se reparle dans pas long.
Oui.
Parce qu'après la pause, je veux vous parler des tensions. Là, on change de sujet, on s'entend. Là, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais il y a quand même un parti qui dirige la ville de Montréal. Et puis, il y a des tensions à l'intérieur de ce parti-là. Et puis l'image qui est dépeinte qui est faite de la mairesse, c'est pas tout à fait l'image qu'on nous renvoie. La mairesse, apparemment, à l'interne, par moment, oh boy, restez à l'écoute.